Amen. On va commencer par une petite vidéo, parce que j'aime bien en ce moment faire ça. Voilà un petit film qui nous montre la beauté de l'univers. Je crois que le message était dans la louange ce matin. Mais je vais quand même le donner. La beauté de l'univers, un univers qui est vraiment magnifique, qui est tellement fort, puissant et en même temps fragile, tellement délicat. Et beaucoup de scientifiques s'accordent pour dire que l'univers tient à des forces, des paramètres, comme par exemple la force de la gravitation, la force magnétique, différentes choses comme ça, différentes lois physiques qui sont extrêmement précises. Et si vous bougez, ne serait-ce que très légèrement, ces lois, la vie ne serait pas possible dans l'univers. Par exemple, on dit que l'univers a une densité, c'est-à-dire il a une lourdeur, il a un poids. Le poids de la matière. Et si l'univers avait été plus lourd, il se serait effondré sur lui-même. La vie n'aurait pas été possible. Et cette précision de la densité de l'univers, quelqu'un a calculé que c'était équivalent à la probabilité pour un archer de viser une cible, de toucher une cible de 1 centimètre carré à l'autre bout de l'univers, alors que lui, il tire depuis la Terre. Et sans savoir où est la cible. Et une seule et unique flèche. C'est improbable. C'est improbable, hautement improbable. Et ces lois physiques qui tiennent l'univers, alors le fait que ce soit comme ça, du coup, certains scientifiques vont même jusqu'à dire, alors que dans le monde de la science, hein, c'est la raison qui est maître, jusqu'à tuer la foi parfois, chez certains en tout cas. Certains scientifiques s'accordent pour penser qu'il y a une conception intelligente derrière. Et bien sûr, quand on lit la Bible, voilà, et quand on reçoit le Seigneur, quand on reçoit Jésus, on sait que c'est Dieu qui a créé le monde. Et c'est Dieu qui a créé toutes ces lois physiques qui tiennent l'univers, comme on l'a chanté ce matin, comme on l'a vu dans cette petite vidéo. Et j'aimerais prendre avec vous le psaume 19. Le psaume 19, qui est un psaume de David, qui parle de tout cela, de toutes ces lois, de la loi de l'Éternel. Le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue. Leurs traces apparaissent sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies. Elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or même, que beaucoup d'or fin. Plus douce que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ces fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de péchés graves. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Amen. Seigneur, je te prie ce matin que ta parole nous remplisse. Que tu viennes par ta parole œuvrer en nous. On a tant besoin de toi. Seigneur, moi j'ai préparé tout ce message. J'ai essayé de capter ta pensée, ton cœur. Mais je te prie que ce soit vraiment ce que tu veux dire ce matin à chacun qui touche. Oui, sois glorifié, ô Jésus. Saint-Esprit, manifeste ta présence. Révèle-toi. Révèle notre Dieu. Amen. Je parlais donc de ces lois physiques qui tiennent l'univers et qui, en fait, sont une expression de la loi de l'Éternel. C'est ce que nous dit ce psaume. La loi de l'Éternel qui tient l'univers, qui tient toute la vie, qui structure l'univers. La loi de l'Éternel, c'est la Torah de l'Éternel aussi, en hébreu. Elle structure toute la vie, non seulement la vie dans l'univers, la vie dans les astres, la vie physique, mais aussi elle structure toute la vie de notre âme. Il y a des lois physiques, puis il y a des lois psychologiques, il y a des lois relationnelles, il y a des lois qui concernent notre être intérieur, qui structurent notre vie et qui viennent de Dieu, qui sont aussi une expression de la loi de l'Éternel. Par exemple, voilà, il y a des lois biologiques qui font qu'on ne peut pas manger n'importe quoi. Il y a des choses que l'on peut manger, il y a des choses que l'on ne peut pas manger. Et d'ailleurs, quand vous lisez dans la parole ce qui concerne les animaux purs et les animaux impurs, il n'y a pas que des choses rituelles là-dedans. Il y avait aussi des questions d'hygiène alimentaire. Et je crois même, ça demande vérification, mais qu'il y a dedans des principes biologiques qui font qu'il y a des choses que l'on peut manger, il y a des choses que l'on ne peut pas manger. Il y a des lois aussi qui concernent notre être intérieur. Par exemple, le Seigneur dit que le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. » Et que le deuxième commandement, qui est son pareil, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça veut dire que l'on doit s'aimer dans un certain ordre. D'abord, j'aime Dieu. Ensuite, je m'aime. Ensuite, j'aime mes proches. Et ensuite, j'aime mes prochains, c'est-à-dire tout le reste. Et ça va dans un certain ordre. Si vous aimez les autres avant de vous aimer vous-même, vous allez manquer d'amour, en fait, pour les autres. Ça, voilà, si on ne s'aime pas dans cet ordre, il y aura des soucis. Il y a aussi des lois dans les relations. Une relation, c'est quoi? Une relation, c'est la part équivalente de deux personnes. C'est 50%, 50%. Et pour que la relation, elle tienne, pour que la relation, elle vive, chacun est appelé à assumer sa part, à faire sa part, à assumer sa responsabilité dans la relation. Et si je ne fais pas mon 50, et ben du coup, c'est là qu'il va y avoir des problèmes. La relation risque d'être rompue. Si je fais la part de l'autre, là, il y aura des problèmes. Si je fais pression sur l'autre, là aussi, il y aura des problèmes. Il y a aussi, par exemple, des lois de communication. C'est préférable dans une relation de dire « je » plutôt que de dire « tu », surtout quand on est dans un conflit. « Je ne me sens pas respecté, ça me met en colère même quand tu me parles comme ça, quand tu me dis ci, quand tu me dis ça. » Plutôt que « tu fais toujours comme ci, tu fais jamais assez, tu fais jamais comme ça. » Surtout quand on utilise « jamais » et « toujours », c'est pire encore, mais le « tu » tue la relation. Si on prend, je suis sûr qu'on peut même trouver les versets qui appuient cela. Parce que ces lois, elles sont dans la parole de Dieu. Si on prend encore un autre exemple, on enseigne que la sexualité a à se vivre dans le cadre du mariage. Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est ce que l'on tire des Écritures. Alors bien sûr, il n'y a pas un verset qui le dit comme ça, noir sur blanc. C'est ce que l'on comprend de tous les enseignements qui concernent ce domaine dans la Bible. Mais si l'on y réfléchit bien, c'est un principe de vie qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'un couple, pour qu'il soit solide et pour qu'il puisse durer, il y a un ordre dans lequel il va se construire. Il y a une logique de construction du couple. D'abord, je construis mon unité, je construis notre unité spirituelle. C'est-à-dire, c'est quoi le projet de vie qui nous lie? C'est quoi les valeurs qui nous sont communes? Et puis, je construis l'unité émotionnelle du couple. Il s'agit, avant d'aller plus loin, de savoir comment l'autre y fonctionne, comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il ressent, comment est-ce qu'on va mettre tout ça ensemble pour fonctionner ensemble dans ce domaine-là. Et après vient, une fois que l'on est engagé, l'unité corporelle, l'unité intime, l'unité des corps. Et si on y réfléchit bien aussi, c'est justement de fonctionner comme ça, c'est ce qui permet de se désirer. Parce qu'on va se manquer l'un à l'autre avant d'aller jusque-là. Et le désir, c'est ce qui permet à un couple aussi de vivre. C'est un des moteurs du couple. Il faut pouvoir se manquer l'un l'autre, se désirer. Et finalement, cette construction du couple, elle obéit à ce principe de vie. Dieu ne dit pas ces choses-là pour rien. Il y a quelque chose qui respecte la manière dont on est créé. Et dernier exemple sur ces lois relationnelles qui sont aussi une expression de la loi de l'Éternel dans le monde visible. Quelque chose qui concerne l'éducation. À un moment, dans Proverbe 1:8, il est dit « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Ça nous dit comment ça fonctionne pour l'éducation d'un enfant pour qu'il grandisse dans la sécurité. Ça veut dire que c'est à la mère d'apporter ce qui est le contenu les règles dans le foyer, les règles dans la maison. C'est elle qui va les fixer. C'est elle qui va dire, on fait ci et on ne fait pas ça. C'est pas au père de le faire. Le père, lui, il est là pour apporter la discipline. C'est ce que signifie instruction en hébreu. C'est lui qui va appuyer, qui va dire, ta mère a dit ci, donc c'est comme ça. C'est lui qui va soutenir le cadre. C'est la parole qui le dit. Et ça, c'est un principe de vie. Et un enfant qui grandit là-dedans, il va grandir dans quelque chose de sécure. Ça va permettre de développer la vie. Il va sentir que le père fait confiance à la mère sur les règles qui sont fixées et que la mère fait confiance au père sur le fait de soutenir cela. En tout cas, elle s'appuie sur lui pour cela. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Parce que nous, avec Estelle, on a essayé de ne pas faire pareil et ça ne marche pas bien. En tout cas, on a commencé comme ça. C'était un petit peu. À un moment, c'était Estelle qui faisait la discipline, c'était moi qui fixais les règles. Mais voilà, on n'a pas choisi de le faire consciemment. Hein. Et puis à un moment, c'était un petit peu confus jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, ça ne marchait pas bien comme ça. Voilà, mais tout ça pour dire que toutes ces lois. Toutes ces lois dans le monde visible, elles sont une expression de la loi de l'Éternel. Et David nous dit dans ce psaume qu'elles sont plus précieuses que l'or fin. Et que pour celui qui les suit, il y a avantage à les suivre. Effectivement, ce sont des lois qui structurent la vie. Et il y a des lois physiques, il y a des lois psychologiques et il y a des lois spirituelles. Il y a des lois spirituelles. Les lois spirituelles qui régissent le monde invisible. Et ces lois spirituelles, en quoi elles consistent? D'ailleurs, si on lit bien le psaume, on voit qu'il en est question à la fin du psaume. À partir du verset 13, qui connaît ses fautes involontaires? David est en train de parler de la relation avec Dieu. Et finalement, ce qui permet de respecter toutes ces lois dont je parlais avant, c'est d'abord de respecter ces lois spirituelles. Ces lois qui conditionnent la relation avec Dieu. Le respect de ces lois, il s'appuie sur le respect de l'Éternel, sur le respect de Dieu. Et comme dans toute relation, pour qu'une relation vive, c'est pas seulement se faire confiance, mais c'est aussi se respecter. Respecter l'autre dans ses besoins. Respecter l'autre dans qui il est. Et quand je respecte la parole de Dieu, je respecte Dieu. Et je permets à cette relation que j'ai avec Dieu de grandir, de se développer. Et on voit que c'est compliqué. On voit que c'est difficile. D'ailleurs, le psalmiste, il l'exprime quand il vient parler de qui connaît ses fautes involontaires. Il se tourne vers Dieu pour lui demander ce qui est caché, de demander pardon à Dieu pour ce qui est caché, pour ce qu'il ne sait pas, pour ce qu'il ignore. Il se tourne vers Dieu pour lui demander de le garder du péché. Et effectivement, on voit que nous sommes dans un monde qui ne respecte pas ou plus Dieu. Toutes ces lois spirituelles ne sont plus ou moins respectées. On le voit au travers de ce qui se passe. On commence à parler de pollution dans l'espace. On voit comment on traite le monde. Ça, c'est une transgression finalement de ces lois physiques. On voit comment on traite le monde. On fait des efforts, on commence à prendre conscience par rapport à l'environnement. Mais ce que l'on voit, c'est que la fonte des glaciers, la fonte de la banquise s'accélère. Et tout cela parce que derrière, il y a l'appât du gain. On voit aussi comment on se traite nous-mêmes dans nos relations. Le 4 avril, on commémorait l'assassinat de Martin Luther King et donc son combat. Et effectivement, le combat de Martin Luther King a permis d'aller plus loin pour les droits des Noirs américains. Mais en même temps, on voit qu'il y a des États aux États-Unis où les Noirs continuent d'être exclus des postes à responsabilité dans les différentes sphères de la société, économique, politique, et qu'ils sont réduits à la misère sociale, à des inégalités sociales. Enfin, 1968, puisque c'est l'année du décès de Martin Luther King, c'est aussi l'année de mai 68, hein, où il y a la libéralisation sexuelle, alors qui était en réaction par rapport au fait qu'il y avait des carcans traditionnels qui étaient très rigides, mais du coup, ça a été le mouvement de balancier inverse. Et on voit aujourd'hui, on est plutôt dans une hypersexualité, avec une confusion des places, confusion entre les enfants, les adultes, une confusion entre les hommes, les femmes. On voit comment ça bouleverse aussi la famille. On voit que finalement, toutes ces lois que j'ai énoncées au début, on n'arrive plus à les respecter, on n'arrive plus à les vivre. Et même dans l'Église, dans l'Église où, comme le psalmiste, on se tourne vers Dieu, on lui demande de reconnaître nos fautes involontaires, on lui demande de nous écarter du péché. Et pourtant, voilà, si on regarde ce qui se passe dans nos vies, ce qui se passe dans nos couples, si on regarde ce qui se passe dans nos familles, ce que l'on aimerait révéler, le Seigneur, obéir à toutes ces lois, vivre toutes ces lois, les incarner, en fait, on n'y arrive pas tant que ça. Dans quelle mesure, parfois, on est meilleur que ce qui se passe dans le monde? même si voilà, on a à cœur que ce soit différent. Et pourtant, Dieu nous donne le moyen. Dieu nous donne le moyen de le vivre. Dieu nous donne le moyen de vivre ses lois, de vivre ses principes de vie. C'est aussi pour ça que nous le pouvons, parce que je ne voudrais pas noircir le tableau. C'est aussi pour ça que nous le pouvons. Nous vivons de belles choses. Nous vivons la paix, nous vivons la joie aussi. Il faut le souligner. Pas autant que l'on souhaiterait, mais nous le vivons et nous pouvons le vivre plus encore. Nous pouvons le vivre plus encore. Nous en avons le moyen. Et ce moyen, le psalmiste nous le dit, David nous dit quel est ce moyen. C'est comme ça qu'il termine le psaume, au verset 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Mon rocher et mon rédempteur. Il termine sur Jésus. C'est Jésus qui est notre moyen pour vivre ses lois. C'est Jésus qui est notre moyen. C'est Jésus qui est notre rocher et notre rédempteur. Parce que finalement, qu'est-ce que la loi de l'Éternel ? C'est quoi la loi de l'Éternel ? La loi de l'Éternel, la Torah de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, la crainte de l'Éternel. C'est qui ? C'est Jésus. La loi de l'Éternel, c'est Jésus. Paul nous le dit, Jésus est le but de la loi. Jésus est le but de la Torah. C'est la visée de la Torah, c'est l'objectif de la Torah. C'est là le fait de suivre la loi de l'Éternel, la loi de Dieu, tous ces principes de vie, tels que je les ai dit, je les ai énoncés, c'est à Jésus qu'il nous amène. Mais Jésus n'est pas seulement le but de la loi, il n'est pas seulement la visée de la loi de Dieu. Il est la loi de Dieu. Torah, ça signifie pas une loi au sens d'une règle, d'un règlement, comme on l'entend humainement. Torah, ça signifie chemin, enseignement. Et Jésus nous le dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Jésus est la loi de l'Éternel. Jésus est la loi de l'Éternel qui structure cet univers. Jésus est la loi de l'Éternel qui structure notre vie, la vie de notre âme, la vie de nos relations. Ce que l'on se rend compte, moi, je réalisais ça, mais c'est irréalisable. Le principe de vie qui structure tout le monde, tout l'univers, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui à un moment a pris forme humaine. C'est Jésus. Et il vient vivre en moi. Le psaume dit, la loi restaure. La loi de l'Éternel restaure mon âme. Elle est parfaite. Jésus est parfait. La loi de l'Éternel restaure mon âme. Littéralement, c'est elle fait revenir mon être. Jésus restaure toutes ses lois, à commencer par ses lois spirituelles. Parce que, bien sûr, je disais, comme dans toute relation, il s'agit de faire confiance, d'accueillir Jésus dans notre vie. De toujours l'accueillir plus, de lui faire confiance. Mais il s'agit aussi de le respecter. Il s'agit de respecter tous ces principes de vie qui sont dans la parole. La semaine dernière, j'avais prêché sur Marc 16. Vous savez, dans Marc 16, à un moment, Jésus dit « Celui qui croira... » Tu pourrais me ramener un verre d'eau, s'il te plaît ? Merci. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Il n'y a pas seulement celui qui croira, il y a aussi celui qui sera baptisé. Ça veut dire que le baptême, c'est une des conditions par lesquelles je respecte Dieu. Là-dedans, il n'est pas seulement question du baptême, il est question de toutes les lois spirituelles que Dieu me demande par lesquelles je le respecte. Il est question de toutes les lois de l'Éternel qui sont aussi dans le monde visible, pas seulement dans le monde invisible. Ces lois de relations entre nous, ces lois par lesquelles on prend soin de nous, ces lois finalement ce sont quoi? Ce sont des balises, comme des balises sur un chemin, qui permettent de rester sur le chemin. Je ne sais plus ce que je disais. Mais il ne s'agit pas de mettre un joug sur nous. Oui, l'Église est responsable. L'Église est responsable d'incarner la loi du Seigneur. Mais ce n'est pas par nous-mêmes. C'est possible parce que la loi vient en nous. Dieu le dit, la loi sera gravée dans vos cœurs. C'est Jésus. C'est Jésus qui est gravé dans ton cœur. C'est Jésus qui est gravé dans mon cœur si je l'ai accueilli. Et c'est lui qui me permet de respecter de nouveau ces lois spirituelles, de respecter de nouveau la loi de l'Éternel et de respecter toutes ces lois qui structurent la vie. Et c'est à partir du moment, bien sûr, le Seigneur, il attend de nous que nous respections tous ces principes, parce que c'est le respecter lui qui aime le Seigneur, aime ses commandements. Mais c'est possible parce que Jésus m'en donne la force. Jésus m'en donne la force. Et c'est à partir du moment où je cultive sa présence. Parce qu'on pourrait essayer par nous-mêmes de tout ce que je vous ai dit au début, d'essayer de le vivre par soi-même, d'essayer de le mettre en place. C'est pas mauvais, mais c'est peine perdue parce que nous sommes limités. Mais avec Jésus en nous, c'est possible. Parce que Jésus, quand tu cultives sa présence, il vient rétablir en toi ce qui a besoin d'être rétabli. On n'a pas tous les mêmes choses. C'est pas tous la même chose qui a besoin d'être rétabli en chacun. Jésus, il sait les rouages, il sait là où ça ne joue pas dans ta vie, il sait où ça ne joue pas dans la mienne. Et quand je cultive sa présence, le Seigneur vient rétablir ses lois spirituelles en moi. Quand je médite la parole, je mange la parole, ses lois spirituelles reviennent en moi. Elles restaurent mon âme. Elles restaurent mon âme. Ça se passe spirituellement. Et après, je suis rendu capable d'observer toutes ces lois. Il n'y a pas longtemps, j'avais été interviewé, il y a eu un sondage au niveau de la Suisse, je crois que c'était la Suisse romande, par rapport à la pollution. Et il y avait des questions qui étaient posées sur qu'est-ce qu'on pense... Qu'est-ce qu'on imaginerait comme solution pour régler le problème de la pollution? Bon, alors, j'ai répondu tant que je pouvais. Mais voilà, c'est une belle initiative. Hein. Mais voilà, s'il n'y a pas Jésus qui nous motive pour des choses comme cela, ça n'a pas de sens. Tout part de notre relation avec Jésus-Christ. Tout part de ta relation avec Jésus-Christ. Sinon, toutes ces lois, c'est un esclavage. Tout part de cet amour que Jésus met en nous et a pour nous. Tout part de cela. Pour terminer, on est dans un monde qui se dérègle. Nous sommes dans un monde qui se dérègle. Nous sommes l'Église de Christ. Nous sommes son corps sur cette terre. Nous sommes appelés à incarner ces principes de vie de Dieu. Et plus le monde va se dérégler, plus il va chercher ce qui va lui donner, redonner ces principes de vie. Plus le monde va se dérégler, plus des personnes vont chercher ce qui va pouvoir les restaurer. Et c'est là que vous allez voir des personnes se tourner aussi vers l'Église. Et nous avons à nous préparer, les amis. Nous avons à nous préparer, mais pas dans le légalisme. Nous avons à nous préparer en cultivant la présence de Jésus. En prenant le temps de la relation du Seigneur, en lui laissant la place partout, en tout, dans notre vie. Et en le respectant, dans tout ce que l'on peut respecter. Amen. Je vais prier. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu nous dépasses? Qu'est-ce que tu nous dépasses? Toi qui as tout créé, tu es la parole par qui tout a été créé et par qui toutes ces lois qui permettent la vie ont été créées, que ce soit dans le monde visible, que ce soit dans le monde invisible. Et tu vois, Seigneur, notre incapacité. Tu vois, Seigneur, notre cœur, notre désir d'être digne de toi, notre désir de te refléter, Seigneur. Comme le psaume, comme David, nous te disons, qui connaît nos fautes involontaires? Pardonne-nous ce qui est caché. Préserve-nous aussi des présomptueux. Préserve-nous de l'orgueil, qu'il ne domine pas sur nous. Alors nous serons intègres, innocents de péchés graves. Reçois favorablement les paroles de notre bouche et la méditation de notre cœur en ta présence. Ô Éternel, Jésus, notre rocher et notre rédempteur. Je te prie, Seigneur, que tu te révèles à nous de manière plus forte encore. Oui, vraiment que nous chérissions celui que tu es en nous. Je t'apporte toutes les personnes que nous sommes avec toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, avec tous les défis que nous pouvons rencontrer. Et je proclame, Seigneur, ta victoire en nous parce que tu vis en nous. Et si tu es dans cette salle et que tu n'as pas reçu Jésus, tu n'as pas reçu celui qui est la vie et qui te permet de vivre, et qui veut te permettre de vivre éternellement. Parce qu'il il a permis que tu sois réconcilié avec Dieu. Il est mort à ta place. Alors que tu puisses accueillir Jésus, que tu puisses croire qui il est. Il est l'envoyé de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est mort pour toi. Et il est ressuscité. Il veut venir vivre en toi. Ouais, Seigneur Jésus, je te remets, nous tous, avec qui on est, là où on en est. Je te remercie, Seigneur, de nous faire goûter encore plus à ta présence. Je te remercie de nous amener, je proclame dans le nom de Jésus que tu vas nous amener à vivre des choses qui vont nous permettre de te donner plus de place. Que celui qui se trouve au carrefour où il doit faire le choix entre toi et le péché puisse te choisir toi. Dans le nom de Jésus, que vraiment tu sois notre force, Seigneur, à chacun ici maintenant. Amen.